Et bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h passé de quelques secondes. Vous êtes toujours dans les oreilles loin du front sur fréquence. Vous êtes toujours sur fréquence Paris et pluriel, ça c'est sûr. Et là, c'est les oreilles loin du front qui commencent. D'ailleurs, on n'a jamais. Enfin, si, on a déjà bien porté notre nom, mais là, franchement. On est contente de se nommer les oreilles loin du front et on espère le rester longtemps. Ce soir, on va vous diffuser un entretien que Hélène a enregistré avec Anne-Claire Val. Anne-Claire Val, qui est géographe et qui a publié avec Laura Wojcik chez Zone Édition, Les naufragés du Grand Paris Express. Fréquence Paris pluriel, les oreilles loin du front. Eh bien, ce soir, on n'a pas d'invité en plateau et on n'a même pas la personne qui a interviewé Anne-Claire Val. La personne qui l'a interviewé, c'est Hélène. Mais elle nous a fait un petit conducteur là qu'on va vous lire. Pour vous présenter un peu cette émission qui a été enregistrée il y a quelques jours et qui porte sur ce livre qu'Anne-Claire Val et Laura Wojcik ont publié chez Zone, donc qui dépend des éditions La Découverte, et qui s'intitule, vous l'avez sans doute vu en librairie, Les naufragés du Grand Paris Express, que Yolène appelle donc le Grand Paris Express. Et donc ce Grand Paris Express, c'est, vous savez, toutes ces gares comme ça, et 68 gares qui sont en train de se construire autour de Paris. Et donc, bon, bah, au-delà de ces gares et des JO, ça a quand même des conséquences terribles sur les banlieues, le plus souvent les banlieues populaires, évidemment, ils ne sont pas allés construire... De nouvelles gares à Neuilly, c'était déjà assez bien desservi. Enfin bon, vous allez écouter un premier extrait de cet entretien avec qui va commencer sur un survol du projet du Grand Paris T'Express, donc son coût, ses financements, ses origines et ses objectifs affichés.
Bonjour Anne-Claire Val.
Bonjour.
On te reçoit parce que tu es enseignante-chercheuse à Marne-la-Vallée et tu as coécrit un livre avec Laura Wojcik, qui est elle-même journaliste, je crois qu'elle est journaliste au Monde.
Au Parisien.
Au Parisien, voilà. Et vous avez donc coécrit ce livre qui s'appelle « Les naufragés du Grand Paris Express », qui est sorti chez Zone. Et en fait, c'est le résultat d'une enquête que vous avez menée sur plusieurs années sur justement toute la question des démolitions et des reconstructions qui sont liées au projet Grand Paris Express. Première question déjà, qu'est-ce que c'est que ce projet de Grand Paris Express et quel est le coût estimé aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, on a l'impression que c'est surtout un projet de transport, un projet de réhabilitation du réseau, enfin de développement du réseau de transport parisien. Et en réalité, on s'aperçoit en lisant votre livre que c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un projet de rénovation urbaine, quoi, de reconstruction urbaine.
Ouais. Mais au départ, c'est un projet de transport, donc de faire des lignes en rocade autour de Paris pour relier des pôles d'emploi, des pôles de transport et éventuellement des banlieues qui n'étaient pas très bien reliées. C'est à l'issue d'un compromis. Donc 200 km de nouvelles lignes, pardon, 4 nouvelles lignes, l'extension de lignes qui existent déjà et 68 nouvelles gares. Donc c'est au départ un projet de transport et il est estimé à 42 milliards d'euros aujourd'hui. Donc c'est assez énorme, c'est vraiment un très très grand projet à la fois en termes de coûts mais aussi en termes d'ampleur, de nombre de chantiers actuels, etc. Ils appellent ça un giga projet, méga projet, etc. C'est important parce que c'est un projet qui est quand même très lié à la concurrence entre les métropoles, au fait de montrer à quel point Paris se renouvelle, est capable de faire des très grands projets urbains. Il y a une sorte d'affichage très important. Par exemple, toutes les gares qui vont émerger, certaines sont des gares qui existent déjà, mais elles vont toutes avoir un nouveau bâtiment de gare, un peu futuriste, machin. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont expropriés, c'est pour faire la place à ces bâtiments de gare et ce sera pas juste une bouche de métro quoi. Donc ça c'est clairement, il y a déjà eu des expos d'architecture là-dessus sur les futurs bâtiments de gare, donc on voit bien qu'il y a un enjeu d'image de montrer que Paris est pas une ville qui bouge pas, que ça se renouvelle et qu'on est capable de mener de front plein de chantiers. Donc c'est un projet de transport, mais en fait il est tourné vers la concurrence intermétropolitaine. Il est lié au fait d'attirer des investissements, d'accélérer la circulation du capital. Hein, très clairement, il est très haussmannien ce projet, de ce point de vue-là. Et par ailleurs, et nous c'est ce sur quoi on a travaillé, il permet un remaniement urbain. Puisque dans les 68 nouvelles gares, ça va être aussi 68 futurs quartiers de gare dans lesquels il y a en fait une sorte d'aire de 800 mètres autour des gares, c'est à peu près 10 minutes à pied, dans lesquels il y a des droits de préemption renforcés, enfin où la puissance publique peut acquérir des terrains, des maisons, des logements. Et en fait, la surface cumulée de tous ces quartiers de gare, ça fait une fois et demie Paris. Donc, c'est, en fait, on ne se rend pas compte, c'est plein de petits quartiers, mais en vrai, c'est énorme comme terrain de jeu tout d'un coup pour des acquisitions foncières et des promoteurs. Et notamment, beaucoup en Seine-Saint-Denis, dans des banlieues populaires.
Bah oui, vous vous rappelez d'ailleurs dans le livre, je crois que c'est autour de 13 000 hectares qui sont concernés. On se rend bien compte que c'est énorme. Est-ce qu'on a une idée de combien de logements sont prévus à la construction dans ces nouveaux quartiers ? Pas vraiment, c'est des milliers,
Des dizaines de milliers. C'est compliqué parce que en fait, chaque programmation, elle est par quartier par quartier. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a une densification, il y aura plus de logements qu'il n'y en avait avant. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 900 ménages, donc 900 logements qui sont expropriés, enfin qui sont en procédure ou qui ont été ou qui sont en procédure d'expropriation. Et il y en aura bien plus qui vont être construits à la place.
Et par ailleurs, concernant les expropriations et les démolitions, ça, on y reviendra parce que je pense que c'est lié au Grand Paris Express, mais il y a aussi, ça se greffe sur des projets de rénovation urbaine qui sont plus anciens, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Quelle est la structure institutionnelle ou administrative ? Ça a l'air assez complexe, hein, cette société du Grand Paris qui gère le Grand Paris Express, qui gère les travaux, qui s'occupe de prendre les décisions, où vont arriver ces nouvelles gares, quels sont les financements aussi ? Ça, c'est vraiment des questions qui sont complexes. Alors peut-être qu'on peut découper la question. Déjà, quelle est la structure institutionnelle de ce Grand Paris Express ?
Ouais. Alors, on peut parler du Grand Paris Express, mais après, il y a aussi la métropole du Grand Paris. Mais du coup, le Grand Paris Express, le réseau, quoi, le GPE, il est construit par la Société du Grand Paris, qui maintenant s'appelle la Société des Grands Projets, et qui est une société d'État. Donc clairement, c'est l'État qui pilote ça. Après, pour le financement, c'est très compliqué. Il y a des ressources. En fait, il y a une partie qui est de l'investissement public, puis il y a une partie qui est des taxes et des impôts. Enfin, ce n'est pas que de l'investissement public, sinon c'est trop énorme, mais c'est quand même un gros investissement public. Et sinon, il y a des taxes sur les ventes des terrains, il y a des taxes sur les entreprises, etc., sur les contributions transport, ce genre de choses qui vont être affectées. Et après, il y a aussi les marges d'exploitation. C'est-à-dire, c'est beaucoup de l'emprunt. Et puis, à un moment, ça va finir par être en route. Et là, on va engranger de l'argent. Voilà. Donc, c'est très haussmannien, soit vu là comme.
Alors, je te coupe parce que j'ai l'impression que ça, c'est quand même un enjeu, ce financement. Toi, tu vas très vite parce que tu connais évidemment tous les enjeux. Tu as travaillé dessus. Mais pour les auditeurs, auditrices, en fait, si j'ai bien compris, il y a à la fois de l'investissement public de l'État, mais il y a aussi ces fameuses taxes dont tu parles qui sont réaffectées, qui sont normalement des taxes locales, qui sont réaffectées à ce Grand Paris. Et puis, il y a des emprunts qui sont des emprunts locaux ou qui sont des emprunts qui viennent de l'intercommunalité. Puis, il y a des emprunts d'État. Enfin, ça
Alors,
a l'air
c'est
d'être
des emprunts
un...
de la SGP. Donc, c'est des emprunts de la société qui est endettée. Il y a un fonctionnement... J'arrête pas de parler d'Haussmann parce que les grands travaux d'Haussmann au XIXe siècle, le fait d'ouvrir ces grandes avenues, ça avait le même but de faciliter la circulation et la circulation du capital. Et en même temps, c'était financé par l'emprunt. Ce qui, à l'époque, était complètement inédit parce que ça paraissait fou. La ville était endettée pendant un siècle. Enfin, elle a remboursé bien plus vite. Mais voilà. Donc, l'emprunt et le fait de vendre les terrains le long des avenues et donc de faire de la spéculation immobilière. Là, il y a des choses qui sont similaires. L'emprunt, il est important. Il y a un gros endettement de la SGP. Mais c'est un endettement, du coup, qui est sécurisé par l'État, enfin, qui est garanti par l'État, etc. Sur les taxes, etc., je ne sais pas très précisément, parce que c'est un peu compliqué et que ce n'est pas directement notre objet d'étude. Donc voilà, il y a des taxes qui sont des taxes, je pense, nationales, mais qui sont en Ile-de-France réaffectées à ça, sur le transport, qui existe déjà pour entretenir les réseaux RER ou ce genre de choses, par exemple.
Et cette société du Grand Paris, donc c'est une société publique, et quel est le contrôle démocratique à l'intérieur de cette institution ? Ce sont des gens qui siègent, qui ont été nommés, qui ont été... Quel est leur pouvoir aussi décisionnaire ? Est-ce que c'est eux qui vont décider justement de où vont se déployer ces nouveaux quartiers de gare ? Est-ce que c'est eux qui décident justement de démolition ?
Ouais, non, pas du tout. La SGP, c'est un exécutant de l'État. Ils n'ont aucune autonomie. Hein. C'est l'État qui a déterminé le tracé des lignes en compromis avec la région qui à l'époque était à gauche, donc du coup il y a eu un compromis entre deux visions, si vous voulez. Il y avait une première vision qui était de l'État, qui était des lignes en rocade mais très en grande couronne, juste pour relier les aéroports et les grands pôles, et notamment Saclay, parce que quand même le gros enjeu, c'est le technopôle français, n'est-ce pas, machin, parce que l'idée, c'est de Je fais une petite parenthèse, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est quand c'est un enjeu d'aménagement du territoire en France, pas seulement pour l'Île-de-France. Il y a cette idée qui est assez en rupture avec des décennies d'aménagement du territoire où il s'agissait d'équilibrer Paris, la province, machin. Là, c'est de dire, bah, en fait, on a un atout dans la mondialisation, c'est Paris, et on va le renforcer. Et ça va ruisseler ensuite sur le reste du territoire. Donc ça, c'est assez inédit, y compris il y a des villes de province qui ont dit, bah ouais, nous, il nous faudrait beaucoup moins d'argent pour juste avoir des transports en commun, comme Marseille. Bon, maintenant, là, ils ont lancé l'idée de faire des RER dans les métropoles régionales, voilà. Mais donc, la SGP s'occupe de la construction du réseau, mais elle applique le tracé décidé. Et je reviens parce que j'ai ouvert ma parenthèse. Donc, il y avait cette vision donc, de juste les pôles d'emploi, etc. Et puis, il y avait une vision de la région, donc à l'époque, à gauche, qui, elle, essayait de faire des... Enfin, c'était l'Arc Express, de faire une rocade plus proche de Paris dans les banlieues mal desservies, genre Clichy-Montfermeil, etc. Et ils ont fait un compromis entre les deux. Notamment parce qu'à un moment, il y a eu la gauche au pouvoir avec Hollande et que c'est lui qui a lancé ce qu'ils ont appelé le Nouveau Grand Paris. Et c'est là que ça a été effectif de lancer les travaux et de dire, bon, bah voilà, c'est ça qu'on va faire. À un moment où il y avait un alignement des planètes avec l'État à gauche, la région à gauche, la ville de Paris à gauche, enfin, gauche de gouvernement. Hein. Donc, la SGP s'occupe de la construction du réseau. Mais là-dedans, du coup, elle délègue à un sous-traitant privé, la SEGAT, la charge des expropriations. Bon, ça, c'est comme tout grand chantier, hein, je ne sais pas, la 69, etc. Enfin, dès qu'on veut faire des grands travaux, bah, il faut exproprier, récupérer les terrains. Et donc, c'est une charge, c'est un coût. Donc, le but, c'est de faire que ce soit le moins cher possible et le moins long possible pour ne pas retarder les travaux. Donc, ça, c'est un élément. En revanche, savoir qu'est-ce qu'on va construire à la place, etc., ça ne relève pas du tout de la SGP. Là, ça relève... en fait, de collectivités locales contractualisées avec l'État sous la forme de ce qu'on appelle des contrats de développement territoriaux, des CDT, pour chaque quartier de gare, en fait, avec comme base des formes d'intercommunalité, c'est-à-dire avant que ce soit les intercommunalités actuelles qui découpent la métropole du Grand Paris. Ce qui est compliqué, c'est que là, on parle déjà de qui construit quoi, etc. Mais à côté de ça, on en parlera peut-être plus tard ou pas, mais il y a aussi la métropole du Grand Paris et qui est aussi quelque chose de compliqué. Voilà. Mais en tout cas, bon, pour faire simple, ce sont des contrats, en gros, une planification urbaine qui dit, voilà, on va construire tant de logements, tant de bureaux, tant de logements sociaux, etc., qui est contractualisée entre des collectivités locales. Mais en général, c'est plusieurs communes. Ce n'est pas une commune et l'État, c'est plusieurs communes et l'État. Et on y reviendra, mais par exemple, les logements sociaux, même... pour un contrat de développement territorial, ils ne mettent pas les mêmes pourcentages par commune. Donc, c'est vraiment à la carte, quoi. Chaque commune dit, moi, je veux en faire tant, moi, je veux en faire tant. Et ça peut être complètement opposé. C'est-à-dire que certains peuvent augmenter leur taux, d'autres le baisser.
Et justement, tu réponds un petit peu à ma prochaine question. Là, enfin, en tout cas, on voit les prémices de ta réponse. Mais donc, le projet du Grand Paris Express, en fait, c'est le résultat d'un millefeuille, de l'alternance aussi, droite, PS, hein, en gros. Donc aujourd'hui, ça aboutit sur ce projet de travaux de transport et de rénovation urbaine. Il y avait dans les tubes cette idée, il me semble, de rééquilibrer le peuplement entre l'Est et l'Ouest parisien, de rééquilibrer aussi peut-être les inégalités sociales entre l'Est et l'Ouest parisien. Je ne sais pas si c'était vraiment ça qui était dans l'idée, mais en tout cas, il y avait un peu cette idée-là. Où est-ce que ça en est, ça, aujourd'hui ? Est-ce qu'on voit se dessiner ce rééquilibrage ou pas du tout ?
Alors, oui, parce qu'en fait... Là, on vient de parler du Grand Paris Express, donc ce réseau de transport. Avant qu'il émerge, il y avait déjà des réflexions au début des années 2000, fin des années 2000, disons, des réflexions sur il fallait refaire le schéma directeur de l'aménagement du territoire en Île-de-France, donc qui dépasse largement la question des transports, hein, où il y avait ces objectifs. Et c'était la gauche qui était à la manœuvre, et donc c'était l'idée de rééquilibrer. Alors, c'est pas tellement le peuplement, c'est rééquilibrer les emplois, notamment, etc. Effectivement, redistribuer peut-être le logement social, avoir aussi des enjeux écologique, etc. Donc faire quelque chose d'un petit peu progressiste à ce moment-là. Et après, ça, c'était donc le début des développements sur une réflexion en fait sur la métropole à part entière et pas seulement sur Paris ou ses banlieues, etc., d'avoir une vue d'ensemble. Et ça s'est surimposé là-dessus. Donc ça, c'était à l'échelle régionale. La volonté de l'État au moment de Sarkozy en 2016 a dit, nous, on va faire le Grand Paris, blablabla, on va imposer une structure de gouvernance ad hoc. Et puis... assez vite s'est dessinée l'idée d'un nouveau réseau de transport. Et ça s'est un peu imposé. Et là, il y avait, bon, oui, on pourrait le voir comme une forme de rééquilibrage au sens où il y aurait autant de transports à l'est qu'à l'ouest, mais il n'y a pas vraiment d'idée de faire des pôles d'emploi particulièrement. Voilà. Et alors, la question, par exemple, bon, la question écologique, si ils vont dire c'est des transports en commun, donc ils vont dire c'est écolo, mais.
Ils vont construire des écoquartiers, on y reviendra plus tard.
Par ailleurs, évidemment. Mais la question, par exemple, de la péréquation fiscale, de la redistribution des agents sociaux, elle est plus. Enfin, c'est plus du tout d'actualité. Encore moins maintenant où il y a un alignement à droite. Donc là, c'est plus du tout. Enfin, sauf la ville de Paris, mais voilà. Donc voilà, il y avait effectivement ces idées-là. Mais après, il y a eu une sorte de surimposition par l'État de ses propres objectifs, qui cette fois prend Paris comme un atout économique dans la mondialisation. C'est plus la question seulement de comment on aménage l'Île-de-France, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette, comment on fait pour que cette région là soit un moteur de croissance pour toute la France. En fait, c'est ça l'enjeu.
Mais justement, ça, t'en as parlé au début. Moi, je me demandais à quoi ça correspond cette compétition internationale entre les grandes métropoles. En fait, qu'est-ce que c'est la place à remporter? Qu'est-ce que c'est le marché à remporter? En fait, quel est l'enjeu de cette compétition entre Paris et Londres, qui est aussi derrière le fait qu'on ait demandé, que les pouvoirs publics aient demandé les Jeux Olympiques. Hein. Enfin, qu'est-ce que c'est l'enjeu qu'il y a derrière ça?
Dans le cadre, en tout cas, de la mondialisation néolibérale, de l'ouverture des frontières aux capitaux, aux marchandises, etc., il y a une concurrence généralisée qui est à tous les niveaux, qui est entre des usines françaises et des usines à l'étranger où la main-d'œuvre est moins chère. Bon, ça, on connaît. Mais ça se joue. Donc ça se joue, et ça se passe par la délocalisation, hein, on sait comment ça se traduit, mais ça se joue aussi du point de vue des chaînes de commandement. C'est-à-dire que les métropoles, leur fonction économique dans cette mondialisation néolibérale, c'est de concentrer les fonctions de commandement. Donc de commandement de l'économie, on ne parle pas de commandement politique, même si parfois ça va de pair, c'est-à-dire ceux qui font, qui conçoivent les produits, les directions d'entreprise, tout ce qui est aussi ce qu'on appelle les fonctions métropolitaines, c'est beaucoup les fonctions à haute valeur ajoutée, le conseil, la finance, voilà. Tous les avocats, les consultants, tous ces trucs-là. Et les métropoles, dans le cadre d'une économie ouverte, sont en concurrence pour attirer des sièges d'entreprise, les meilleurs cabinets de consulting, donc à la fois des emplois très qualifiés qui sont très désirés par les métropoles, mais aussi des investissements. Donc à la fois des secteurs d'activité, mais aussi des investissements dans l'immobilier, parce que en fait le foncier, l'immobilier, c'est en soi un secteur économique à part entière qui ramène de la plus-value et qui donc participe au PIB des métropoles. Et aujourd'hui, maintenant, on compare les PIB des métropoles. Voilà. Et donc, Londres et Paris sont vraiment directement en concurrence. C'est vraiment les deux grandes métropoles mondiales en Europe. Celles qui ont... Alors, elles n'ont pas tout à fait le même profil, mais elles ont quand même, un poids économique équivalent. Et on voit bien que cette question des JO est un enjeu, puisque déjà en 2012, la France avait demandé les JO pour Paris, ne l'avait pas eu, Londres l'a eu, et a fait des choses très proches de ce qu'on fait là pour les JO 2024, à savoir une nouvelle ligne de métro, bon, c'était pas tout le réseau, mais une nouvelle ligne de métro, et des nouveaux quartiers urbains flambant neufs, plutôt tournés vers des classes moyennes supérieures, à l'issue des Jeux Olympiques, dans des espaces populaire de Londres. Donc, on avait déjà la feuille de route, quoi. Et là, on refait un peu pareil pour dire, maintenant, c'est nous, quoi.
Et concernant les plus-values immobilières, est-ce que l'État va s'enrichir dans ce projet, ou finalement, ce sont des rentes qui vont aller au secteur privé? Parce que tu as parlé justement de cette préemption des pouvoirs publics sur ces terrains qui vont devenir les nouveaux quartiers des gares. Mais vous mentionnez dans le livre qu'en fait, les pouvoirs publics s'y sont assez peu intéressés et que ces terrains-là, ils ont été captés en grande partie par des promoteurs privés.
C'est sûr qu'on est tout à fait dans le cadre quand même de l'intervention de l'État dans l'économie néolibérale, c'est-à-dire que c'est la socialisation des pertes, la privatisation des profits. On est quand même dans un investissement public lourd pour permettre de l'accumulation du capital privé, même s'il peut y avoir des retours quand même, notamment locaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une mutation foncière, il y a un impôt dessus et ça revient aux communes ou aux intercommunalités. Il y a éventuellement des impôts, même s'il y en a de moins en moins, sur les sociétés ou ce genre de choses pour l'État. Mais l'État, c'est plutôt... Là, on est vraiment, vraiment dans le classique de l'intervention de l'État dans l'économie néolibérale, c'est-à-dire un soutien aux entreprises privées avec l'idée qu'au total, s'il y a croissance, c'est quand même bénéfique pour l'État, quoi, grosso modo. Bon, enfin, c'est bénéfique pour la France, on ne sait pas trop pour qui. Mais là, on est quand même dans le schéma, on en reparlera certainement si on aborde les enjeux de gentrification, d'un investissement public fort, même quitte à mettre à contribution le privé pour le financer, mais quand même, y compris le fait que c'est, c'est une opération d'intérêt national. Enfin, c'est l'État, quoi. C'est pas juste les communes de Seine-Saint-Denis qui ont dit « Allez, on va faire un nouveau réseau, quoi. » C'est même pas la région, c'est l'État. Donc, ça veut dire que c'est un enjeu national qui, en termes d'investissement et de décision publique. Mais pour qu'on puisse soit attirer des investisseurs, des entreprises, faire concurrence avec Londres, en plus avec le Brexit. Voilà, on essaie d'attirer des entreprises qui pourraient partir d'Angleterre. Et puis, ben, surtout, faire de l'argent avec le foncier et l'immobilier. Parce que c'est un vrai gros secteur, y compris notamment en France, et qu'il y a des grosses perspectives de plus-value dans ce domaine-là.
Et donc, tu disais juste au début de l'entretien qu'il y avait 900 logements qui étaient concernés par des expropriations aujourd'hui. Déjà, est-ce que c'est 900 logements qui vont être détruits de manière nette ? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait que c'est des expropriations, des démolitions qui ne vont pas être construites dans les mêmes proportions ? Ou est-ce que pour l'instant, en fait, il s'agit de 900 logements qui sont en cours d'expropriation et qui sont en procédure d'expropriation.
Alors, ils sont pas tous, c'est pas tous terminés. Hein. Là, c'est une statistique qui est transmise par la SGP elle-même, la Société du Grand Paris. Donc, il faudrait vérifier. Mais là-dedans, il y en a où c'est fait, d'autres où ça s'est fait à l'amiable, certains ça s'est fait au contentieux, certains c'est en cours et certains c'est pas fait. Voilà. Et ça, c'est je peux pas vous dire les proportions, mais c'est pas, il y a pas d'enjeu de remplacement de ces logements. On n'est pas dans la rénovation urbaine, dont on parlera sans doute après, sur les logements sociaux où on démolit, on reconstruit. Là, c'est des propriétaires qu'on exproprie pour construire les gares essentiellement, éventuellement pour dégager de l'espace pour les chantiers de gare. Donc, il y a des gens qui vivent pas très bien. Le fait de savoir qu'on démolit leur maison juste pour mettre des déchets et qu'après, ben, on n'en aura plus besoin. Mais on ne va pas reconstruire leur maison. Enfin, en fait, après, ils vont céder les terrains et ce sera une opération de promotion immobilière. Pour le reste, la plupart, ce sera les gares, en fait. Donc, ils vont pas être, tous ces logements ne vont pas être reconstruits. Mais effectivement, à la place, dans les quartiers en question, il y aura des logements. Mais ce ne sera pas, c'est pas des remplacements, quoi.
Et vous passez des pages, qui sont des pages d'ailleurs qui serrent le cœur hein, avec Laura Vogic, à parler justement des effets sur les habitants, les propriétaires concernés par ces expropriations. Vous en avez rencontré. Comment est-ce qu'ils vivent, eux, ces expropriations, ceux que vous avez rencontrés ? Quels sont justement les différents cas ? T'en as un petit peu parlé. Hein, soit bon, bah, je pars parce que... On me propose, je suppose qu'on leur propose un dédommagement qui les satisfont, soit justement le dédommagement ne les satisfait pas, ils entrent en procédure, c'est très long, etc. Comment ça se passe pour eux ?
Ouais, c'est un gros truc du livre, ça, parce que, bon, en gros, ça se passe mal pour la plupart des gens. Enfin, c'est-à-dire que il y a des procédures légales. Alors, la procédure légale, elle est déjà à l'avantage des expropriants, plus que pour les expropriés. Effectivement, quand on est exproprié, on a un dédommagement. On ne part pas sans rien. Mais néanmoins, tout l'enjeu, c'est le montant du dédommagement pour qu'on puisse se reloger dans les bonnes conditions, au même endroit si on le souhaite ou là où on le souhaite. Or, en général, c'est l'État qui fixe les prix. Et en général, c'est des prix qui sont en fonction des prix du marché 2 ans avant la déclaration d'utilité publique, dans un marché qui est en plein boom, notamment par l'arrivée des gares. C'est-à-dire qu'on prend les prix avant qu'il y ait les gares, 2 ans avant, et puis 5 ans après, il y aura la gare, et donc les prix n'ont rien à voir. Et comme en plus ça traîne en longueur, les gens, quand on les indemnise, ils ne peuvent pas se reloger au même endroit. Donc en plus, là, nous, on est allé, pour ces questions de propriétaires, on est allé pas mal à Bondy et à Aubervilliers. C'était les deux endroits où on a rencontré des gens qui étaient en cours d'expropriation. Ça concerne aussi des commerçants, d'ailleurs. Donc là, c'est encore tout autre chose. Mais en tout cas, pour les gens dont c'est le logement, un petit pavillon ou appartement dans un immeuble, bon, déjà, il y a tout qui ne va pas, quoi. Déjà, ils l'apprennent par la bande, enfin voilà, dans une réunion publique où ils présentent le projet, ils disent « Ah, mais cette parcelle, c'est nous, en fait, on va être des... » Bon, voilà, donc déjà, c'est assez violent. Parfois, ils l'apprennent par une lettre, mais qui est très jargonneuse, très, voilà, technique. Et on leur apprend quand même que, et souvent, ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils vont perdre leur logement. Donc, c'est pas rien comme annonce. Et c'est fait, un truc très technique pour la Ségade qui s'en occupe. C'est un truc, c'est une procédure. Bon, là, on doit faire ça. Sauf que ça concerne un truc assez fort de la vie des gens. Ça, c'est la première chose, comment on l'apprend. Donc les gens sont paniqués, ils savent pas trop, on leur donne pas trop les infos, évidemment on leur donne pas les outils pour se défendre. Et en général, après, il y a aussi le second problème, c'est la question du temps. C'est-à-dire que comme là il y a eu des retards dans la construction des lignes, en fait souvent ils l'apprennent et puis 3 mois après, très vite, ils ont des coups de fil, bon, on va venir, on va vous proposer un truc, tout se fait à l'oral, donc sans aucune garantie. Et puis on leur propose un prix les gens, dès qu'ils se renseignent un peu, ils voient que ça va pas aller, quoi, que ça va pas suffire. Et là, on leur met la pression. On leur dit il faut le faire bientôt. Si vous voulez contester, vous aurez moins. Et ça, c'est faux. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, là, ce qu'on a vu, c'est qu'à chaque fois que les gens sont allés en justice, et y compris les avocats qui les accompagnent en justice, disent qu'on obtient toujours plus quand on va en procès. Après, c'est pas donné à tout le monde d'aller en procès. C'est beaucoup plus long. Enfin, voilà. Donc, et même quand ils obtiennent plus, malheureusement, c'est quand même pas assez, puisque ça a mis 5 ans et que le marché a augmenté, c'est quand même pas assez pour se reloger dans les mêmes conditions. Mais là, on a suivi quelqu'un qui, par exemple, au bout de 5 ans de procédure, a fini par obtenir le prix qu'il demandait dès le début. Et comme c'était trop 5 ans après et qu'il y avait les gares qui ont été construites, des nouvelles lignes et tout, et ben il a quand même dû partir. Enfin, et aller se loger ailleurs. Alors qu'en fait, s'il avait eu dès le début, ça aurait moins coûté, y compris à la SGP. Enfin, on est dans des trucs un peu absurdes. Et puis, donc, il y a des phases d'accélération. Mais le problème, c'est que comme parfois, et ben, il y a des problèmes, il y a des retards sur la construction des lignes, et ben, il y a des années où il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on leur fait un coup de pression, ils disent non, et puis plus de nouvelles, plus rien. Pendant des années. Et là, en fait, c'est horrible parce qu'en fait, les gens ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas vendre leur logement puisqu'il n'est pas vendable. Ils ne font plus de travaux parce que, bah, voilà, ils ne savent pas s'ils vont partir, pas partir. Ils ne savent pas quel moment. Et donc, ils vivent complètement en suspens tous leurs projets. Certains avaient le projet de partir, donc de revendre. Mais là, ils ne peuvent plus. Tout est bloqué. Les commerçants, c'est encore pire. Enfin, ils sont complètement bloqués. Et après, à nouveau, tout d'un coup, ça leur tombe dessus. La SGP, enfin, la C4 revient et c'est à nouveau très urgent dans 3 mois. Bon. Donc, c'est psychologiquement extrêmement dur. Hein. Il y a bon, des personnes âgées qui l'ont très mal vécu. Certains sont décédés. Bon, voilà, on ne peut pas attribuer directement le décès à ça, mais enfin, quand même, y compris certains. Parce qu'il y a certains qui ont, parce qu'on leur a mis la pression, notamment les personnes fragiles, les personnes âgées, sont partis, ont accepté les offres, même si elles n'étaient pas terribles, et sont partis tout de suite. Mais en fait, ont très mal vécu le déménagement. Enfin voilà, parce qu'il y a des personnes à un certain âge, quand ils ont vécu 20 ans dans un endroit, ben, c'est un peu criminel en fait de les déplacer. Donc voilà.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front. Vous avez peut-être reconnu Cat Power qui chantait Manhattan, puisqu'il y a un lien entre notre émission d'aujourd'hui et les transformations de Manhattan, avec les gens qui partent, la gentrification et tout et tout. Puisque ce soir, nous diffusons un entretien que Yolène a enregistré il y a quelques jours avec Anne Clerval, qui a écrit avec Laura Wojcik chez Zone Les Naufragés du Grand Paris Express. Et on va continuer notre émission avec les expropriés, la rupture que cette expropriation représente pour eux. Et puis on s'intéressera aux relogés des logements sociaux et à la question plus générale de la réduction de ces logements sociaux.
Donc tout est plus ou moins légal, enfin dans la forme, les côtés coups de pression, tout ça, faudrait voir. Mais ça respecte à peu près la forme, mais en revanche, c'est vraiment pas humain. Il n'y a pas d'enquête sociale comme quand on doit reloger des personnes du logement social. Il y a pas mal de ces personnes Oui, c'est ce que je voulais dire. Les personnes qu'on a rencontrées à Bondy et Aubervilliers, donc dans des villes populaires, ces petits propriétaires, c'est vraiment des profils de petits moyens. C'est-à-dire des gens, souvent d'ailleurs d'origine immigrée, qui ont vécu une petite ascension sociale, y compris par l'investissement immobilier, en devenant propriétaire, en ayant un petit capital potentiellement. C'est des classes populaires stables qui ont un tout petit peu monté. Les enfants ont fait des études et sont en ascension. Mais le truc, c'est que quand l'expropriation casse leur parcours d'ascension. De toute façon, ça leur fait perdre du capital, ça leur fait perdre de l'argent. Puis ils le vivent comme un déclassement, etc. Et certains de ces petits propriétaires entrent dans les critères du logement social, donc pourraient demander un logement social. Sauf que, en fait, voilà, quand on vient des classes populaires, qu'on a investi, enfin qu'on a économisé toute sa vie pour devenir propriétaire, être envoyé au logement social, c'est un déclassement et donc c'est difficilement supportable. Voilà. Il n'y a pas d'enquête sociale, en fait. On considère que c'est des propriétaires. Bon, ben voilà, ils ont de l'argent. Hein, alors qu'en fait, être propriétaire d'un petit pavillon à Bondy, on n'est pas richissime, quoi. C'est pas la même chose qu'une villa dans les Hauts-de-Seine.
Et tu as mentionné à deux reprises le problème des commerçants. Vous passez aussi un moment dans le livre à parler d'un cas, ouais, d'un commerçant qui est à Aubervilliers, oui, je crois. Et alors là, c'est frappant parce que on calcule son bail commercial, enfin le rachat de son bail commercial pour l'exproprier en fonction de son chiffre d'affaires. Ouais. Mais ce que vous expliquez, c'est que son chiffre d'affaires évidemment chute puisqu'il y a des travaux.
Ouais. En fait, ça, c'est terrible. C'est effectivement ces deux restaurateurs qu'on a rencontrés à Aubervilliers, qui sont tunisiens, qui ont immigré en France, qui ont été parmi les premiers à ouvrir quelque chose comme un kebab amélioré avant que ça devienne très général, et qui ont eu beaucoup de succès, qui ont vraiment toute une clientèle et tout, qui à un moment ont fait des travaux pour améliorer, changer la carte, etc. Et puis, bon, l'expropriation leur tombe dessus. Eux, ils ne sont pas propriétaires des murs, donc en plus, ils négocient pas directement avec les Sagat, mais simplement en tant que propriétaires du bail commercial, enfin, tenanciers du bail commercial, ils ont droit aussi à une indemnisation, comme tu dis, qui est donc fonction de leur chiffre d'affaires. Comme ils savent jamais, ça fait 5 ans qu'ils sont en procédure, ils savent pas quand ça va tomber. Ils doivent continuer absolument à travailler. Ils sont proches de la retraite tous les deux. Donc la vente de leur bail commercial, c'est ce qui va financer leur retraite, comme la plupart du temps dans les petits commerçants. Et ils continuent de travailler, mais ils travaillent à perte parce qu'en fait, il y a des travaux. En l'occurrence, à Aubervilliers, c'est encore pire parce qu'il y a la 15 qui va arriver, mais il y avait la 12 et ça a pris un retard presque de 10 ans. Donc, ils sont juste devant le chantier. Donc, ils ont perdu de la clientèle, ils ont perdu. En plus, ils ne peuvent plus se renouveler, c'est-à-dire qu'ils auraient voulu, ils attendaient l'ouverture de la 12 pour refaire des travaux, et parce qu'ils disent que ça attire de la clientèle, effectivement, machin. Donc, ça, ils n'ont pas pu le faire. La 12 a pris plein de temps. Donc, ils ont perdu plein d'argent dans cette affaire. Et donc, là, maintenant, ils travaillent à perte, ils n'arrivent plus à se payer, ils travaillent juste pour espérer avoir à peu près quelque chose à la sortie, sachant qu'il y a toujours des travaux, puisque maintenant il y a la 15 et qu'elle n'est toujours pas sortie de terre. Donc c'était terrible, parce que pour le coup, là, c'est même pas les économies d'une vie, c'est le travail d'une vie qui est mis en cause par cette procédure. Et ils risquent de tout perdre, ils risquent de ne pas sortir sans capital, quoi. Et un capital qui n'est pas mirifique. Hein. Donc c'était effectivement... Et ce sont des gens, l'un des deux avec des problèmes de santé, ils étaient très affectés psychologiquement, et comme ils vieillissaient, ça affectait leur santé très clairement. Voilà.
Et tu as mentionné à quelques reprises la Sagat. Donc la Sagat, c'est la société prestataire qui s'occupe d'exproprier justement ces personnes. Comment ça se passe avec la société du Grand Paris ? Est-ce que, parce que vous mentionnez un moment dans le livre, moi ça m'a touché aussi, qu'il y a des salariés des sociétés du Grand Paris qui ne sont pas au courant de comment se passent les expropriations, ou qui sont au courant et qui sont totalement effarés. Est-ce qu'il y a un moyen de contrôler, de réguler ce que fait la Sagat ou...
En fait, vraiment, c'est un sous-traitant. Donc, en gros, ils ont une feuille de route. Voilà, il y a toutes ces parcelles-là expropriées. Et puis, en gros, j'imagine, il y a un budget, à peu près. Donc, le but, c'est et un calendrier. Donc, eux, ils sont prestataires. C'est pour ça que c'est la vie des gens. Mais en gros, on a une mission. Il y a tant de gens, il faut les exproprier en tant de temps et pas plus cher que ça, j'imagine. Nous, on a eu beaucoup de mal. On a pas du tout pu avoir d'entretien ni avec des gens de la Sagat ni avec les gens de la SGP. C'est assez contrôlé, et y compris les salariés sont assez contrôlés dans leur expression, parce que c'est très sensible. Parce qu'effectivement, si on dévoilait, qu'on mettait carte sur table très publiquement à tout le monde, il y a tout ça qui va être exproprié, c'est ça l'enveloppe et c'est ça le calendrier, ça donnerait des armes aux gens pour se défendre. Donc moins on diffuse l'info, plus on les prend par surprise, plus ils savent pas trop combien ils peuvent demander, plus c'est à l'avantage de la SGP et de la Sagat. D'où le fait qu'ils n'ont jamais répondu. Une fois, ils nous ont fait des réponses par écrit qui étaient complètement de la com, qui étaient allez voir la foire aux questions. Ouais, bref. Donc voilà.
Mais la fac.
Ouais, c'est ça. Y compris le.
Mais
disait,
c'est ce qu'ils disent aussi. C'est ce que
aux expropriés.
Oui, c'est ce qu'ils disent aussi aux expropriés. C'est ce que vous montrez dans le livre. Voilà. Donc, allez voir la fac. Ouais.
Mais qui par ailleurs d'ailleurs ne répond même pas à leurs questions, évidemment. Donc C'est très contrôlé. Et il se trouve que, voilà, par le bouche à oreille, on a eu accès à une ancienne consultante qui avait travaillé pour la SGP, donc pas une salariée directe, mais qui par ailleurs avait travaillé dans les Hauts-de-Seine, donc pas tout à fait sur les mêmes terrains, et qui disait que bon, bah, c'était un peu compliqué, qu'il y avait des problèmes de coordination, qu'il y avait aussi des tensions entre le pôle très technique, ingénieur, qui disait bon, bah voilà, faut exproprier, blablabla, et puis le pôle peut-être. Qui avait un peu plus une fibre sociale et qui disait bon, mais quand même, est-ce qu'on pourrait pas, bon, mais et qu'il y avait des problèmes de coordination au sens où c'était mal organisé, que c'était fait dans l'urgence, que bon, on s'imagine, en fait c'est énorme, c'est une mission énorme, donc pour bien le faire il faudrait avoir beaucoup de temps vraiment, et ils en avaient pas, comme toujours il y a des sortes d'urgences de chantier, etc. Donc c'est un giga projet, ben veut dire procédure pas forcément très bien préparée, un peu fait, donc c'est du bricolage en fait. D'où le fait qu'à la fois, il y a à la fois des procédures, je pense que c'est une habitude quoi, de faire comme ça dans les expropriations pour s'en sortir à moindre coût, et en même temps qu'on bricole et qu'ils font ce qu'ils peuvent et qu'il n'y a pas forcément, c'est pas fait exprès quoi, de que ce soit comme ça, mais bon, voilà.
Bon, la particularité là, c'est le nombre quoi, j'imagine, par rapport à construire une autoroute où on doit exproprier, je sais pas, des dizaines de propriétaires, là, il s'agit de centaines, voire de milliers de propriétaires. Quel est le lien entre ce gigaprojet du Grand Paris Express et les rénovations urbaines et les démolitions de logements sociaux, dont vous parlez aussi dans le livre, puisque évidemment c'est lié, notamment la démolition de plusieurs cités historiques dont vous parlez. Alors, je ne sais plus exactement les lieux, mais il y a Lailly-les-Roses, il y a Aulnay aussi. Quel est le lien entre ces projets-là?
Oui, parce qu'en fait, on s'est intéressé à toutes les personnes qui perdaient leur logement en lien direct ou indirect avec le Grand Paris Express. Alors, les expropriations, c'est un lien direct. Il y a d'autres choses qui sont en lien direct. C'est, par exemple, des bailleurs sociaux qui... Alors, des communes qui... Bah, par exemple, pour construire des gares, il y a aussi des barres de l'agence sociale qui sont détruites parce qu'elles sont à l'endroit de la gare. Donc là, c'est pas pareil, puisque là, les gens, on les indemnise pas, mais on les reloge. Sauf qu'il y a tout l'enjeu.
On devrait les reloger.
Enfin, en tout cas, on leur propose des logements sociaux, mais souvent, ils sont plus chers. Donc, il y a tout un enjeu que c'est compliqué pour eux. Mais c'est pas la même chose que la procédure d'expropriation. Et puis, il y a aussi des bailleurs sociaux qui se disent « Ah, bah, il y a la gare qui va arriver juste au bas de cette barre. J'ai, je sais pas, 100 logements. Ben, je vais le déconventionner. Je vais en faire du logement intermédiaire qui est très à la mode en ce moment. » Donc, les gens, ils ont droit de rester hein, s'ils veulent bien payer un loyer beaucoup plus cher. Donc, de fait, eux aussi, ils vont rentrer dans des procédures de relogement. Mais après, donc ça, c'est des cas un peu particuliers. On en avait vu à Gennevilliers, etc. Des gens qui se sont battus, qui ont essayé d'aller en justice, qui ont obtenu, certains ont obtenu qu'il y ait une prise en charge du surloyer pendant un certain temps. Donc, quand même, à un moment, ils vont devoir le payer. Mais qui ont quand même amélioré la façon dont c'est fait. Et puis... Après, on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi donc, les opérations de rénovation urbaine, c'est-à-dire celles qui sont financées par l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le Grand Paris, historiquement, qui date de 2003, voilà, qui est quelque chose qui a été lancé par la droite, qui est une sorte de suite de la politique de la ville, c'est-à-dire enfin, la dite politique de la ville, entre guillemets, qui n'est pas une politique de la ville, qui est une sorte de politique un peu hybride, qui concerne en gros les quartiers populaires de centre-ville ou de banlieue. Beaucoup des grands ensembles, mais pas seulement. Ça peut être aussi des quartiers anciens. Là, on s'est plutôt intéressé à des grands ensembles. Après des décennies depuis les années 80, donc, bon, il y a la crise sociale, la crise des banlieues, les émeutes, enfin voilà, tout ça, ce qu'on connaît. La solution qu'a proposé l'État de droite, donc c'était Borloo en 2003, c'est bon, on n'en peut plus, là, on n'a pas de solution, on va disperser. Donc on va démolir une partie des logements sociaux et les reconstruire ailleurs pour disperser ces gens qui nous posent problème quand ils sont concentrés au même endroit. Donc ça, c'est une politique ancienne, bien avant le Grand Paris, qui n'a pas de lien. Elle a été renouvelée en 2014, donc sous Hollande, donc le nouveau programme national de rénovation urbaine, avec toujours les mêmes exigences. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir en tête aujourd'hui que si une commune veut un peu rénover son parc de logements sociaux, parce que de fait, ils vieillissent, ils ont été mal conçus, etc., elle ne peut pas le faire. En fait, le seul guichet où elle peut avoir de l'argent, parce que ça coûte beaucoup d'argent, c'est l'ANRU. Or, l'ANRU pose comme condition qu'il faut en démolir une partie. C'est-à-dire que soit, si vous êtes une commune, soit vous dites je ne touche pas à mon parc, mais il se dégrade, je n'ai pas d'argent pour ça. Soit je veux le réhabiliter, mais je suis obligée d'en détruire. Et voilà. Et donc, je suis obligée de rentrer dans cette idée que ce n'est pas bien la concentration des classes populaires, il y a trop de logements sociaux, donc il faut que j'en démolisse, que je les reconstruise ailleurs. Et en plus, les conditions pour reconstruire sont de plus en plus draconiennes. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus le droit de reconstruire dans les quartiers politiques de la ville. Il faut reconstruire en dehors. Sauf que pour certaines communes comme Saint-Denis, n'y a pas vraiment d'en dehors des quartiers politiques de la ville. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas reconstruire dans la commune. Ce qui est beaucoup, ça fait baisser les taux de logements sociaux. Et comme tu le sais, on n'a pas besoin de beaucoup de logements sociaux en ce moment, donc ce n'est pas baisser.
Il n'y a aucun problème.
Voilà. Et donc, ça, bon, ça a l'air d'être indépendant. Sauf que ce qu'on a vu, c'est que dans certains quartiers de gare, futurs quartiers de gare, y avait des projets de rénovation urbaine qui avait l'air d'être très opportuniste. C'est-à-dire, bah, c'est super, on va profiter de l'argent de l'ANRU, de l'État, pour démolir des logements sociaux. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'aussi, on encourage le fait de créer une offre neuve, privée. C'est-à-dire qu'on est dans des quartiers où il n'y a que des logements sociaux, il n'y a pas de marché du logement, en fait. C'est que des choses publiques. Mais ça, c'était avant déjà, hein, de favoriser un peu d'accession à la propriété pour diversifier, au nom de la mixité sociale, on pourrait y revenir, diversifier le peuplement, changer, voilà, faire des quartiers qui soient moins marqués, populaires. Et ça, ça existe déjà depuis longtemps. Et ça a un succès variable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas observer une gentrification généralisée des grands ensembles. Sauf que quand on met une gare du Grand Paris, où tout d'un coup, on va être très, très bien relié l'aéroport, un pôle d'emploi, etc., et qu'on voit qu'il y a une opération où on démolit des logements sociaux et on construit des logements privés juste devant la future gare, on se dit « Ah là, ça pourrait peut-être mieux marcher. » Peut-être, hein, tout ça est hypothétique, mais voilà. Et donc ça, là, pour le coup, ça concerne vraiment des milliers de ménages, de gens qui sont relogés et qui ne vont pas pouvoir bénéficier de la gare parce qu'ils ne sont pas relogés sur place. C'est le principe de l'ANRU. C'est-à-dire qu'eux, ils ont galéré avec des histoires de transport pendant des années. À l'Île-et-Rose, c'est ce qu'on a vu notamment, des gens qui rentraient avec des trajets pas possibles parce qu'ils travaillaient à Paris, etc., qui ont fait ça pendant 10 ans, 20 ans. Et là, on leur dit il y a une nouvelle gare, ils disent waouh, génial, ça y est, je vais. Hein? Et ben non, en fait, vous allez devoir partir. Et ils sont relogés ailleurs, donc dans des endroits qui sont mal desservis. Et donc la vie continue de cette manière. Donc c'est profondément injuste.
Alors, tu as parlé du déconventionnement des bailleurs sociaux. Tu as parlé aussi de l'ANRU. Quels sont les problèmes de financement auxquels font face les bailleurs sociaux aujourd'hui?
Oui, alors bon, c'est
parce qu'il y a une des raisons pour lesquelles ils déconventionnent, c'est aussi qu'ils ont des problèmes de financement.
Oui, c'est vrai, ça c'est récent. Bah, et aussi, ils ont la loi les encourage à déconventionner, à vendre, y compris leur patrimoine. Mais là, il y a eu plusieurs réformes récentes sous Macron, en fait, qui ont fragilisé les bailleurs sociaux. D'une part, il y a eu la baisse des APL, donc ça fait que des gens ne peuvent plus payer leur loyer, et en fait, l'État a imposé aux bailleurs sociaux de réduire les loyers pour que ce soit les bailleurs qui prennent en charge en fait le coût de ça et non pas les personnes. C'est ce qu'ils appellent la RLS, la réduction de loyer de solidarité. Sauf que ça, c'était financé sur les fonds des bailleurs. Voilà. Donc c'est énorme en fait. Hein. Pareil, il y avait une TVA réduite sur la création des logements sociaux. C'était 5,5 et c'est repassé à 10 quelque chose. Donc ça veut dire que ça coûte plus cher. Les taux d'emprunt sont plus chers parce que c'est lié à l'augmentation du taux du livret A. Par ailleurs, il y a de l'inflation, donc le coût de construction est plus cher. Ça, c'est indépendant de l'État, mais bon, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, les bailleurs, non seulement ben, tout est plus cher pour créer du logement social et même entretenir leur parc. Or, on leur demande à la fois de créer des logements sociaux et de rénover, faire de la rénovation énergétique, puisqu'il y a un travail colossal pour mettre aux normes les logements sociaux. Et donc, c'est pas possible. Pour l'instant, ils s'en sortent en se finançant par l'emprunt, sauf que les taux d'intérêt augmentent. C'est pas viable à long terme. Donc, ils sont vraiment en difficulté. Il y a beaucoup là, ils tirent la sonnette d'alarme en disant, en fait, c'est pas possible, on peut pas... Enfin, voilà. Et c'est bien pour ça que le projet de loi actuel, Casbarian, là, le projet de loi sur le logement, ben, ensuite, logique de ça, il dit, bon, les bailleurs n'ont plus de fonds et c'est pas l'État qui va remettre de l'argent. Donc, on va leur permettre encore plus de vendre une partie du parc déconventionné ou de faire du logement intermédiaire, donc qui est un peu régulé par l'État, mais qui est vraiment accessible à des gens qui ont des revenus élevés et pas du tout accessible aux demandeurs actuels de logements sociaux, et sur lesquels ils vont pouvoir faire du fric, en fait, et qui développent un secteur plus lucratif, en fait, dans leur parc. Mais, en fait, c'est absurde, parce qu'on n'a pas besoin de logements intermédiaires aujourd'hui, on a besoin de logements très sociaux, c'est-à-dire très subventionnés par l'État.
Et justement, tu montres que dans toutes ces lois de rénovation urbaine, de logement, etc., c'est ce que tu disais pour Saint-Denis, hein, dans cette perspective de mixité sociale, de dispersion des groupes les plus populaires ou les plus précaires, il y a interdiction, si j'ai bien compris, de construire des logements très sociaux, c'est-à-dire des logements vraiment, vraiment abordables, pour les communes qui ont déjà 30% de logements très sociaux. Donc ça veut dire que les communes qui en avaient plus et qui se voient dans l'obligation par les bailleurs, par voilà, les projets de rénovation urbaine, de détruire ces logements très sociaux, ne peuvent plus les reconstruire.
Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a des maires, on a rencontré quand même des maires qui voulaient faire du logement social, à Saint-Denis à l'époque, où, avant que ça passe au PS, mais aussi à Gennevilliers avec Patrice Leclerc, où ils disent qu'ils se battent avec l'ANRU pour réussir à reconstituer dans leur ville l'offre de logements sociaux démolis. Mais ça, c'est une minorité de maires, parce qu'il y a d'autres maires comme à Aulnay, qui est un maire de droite, où là, non seulement ils sont très contents de ne pas reconstituer dans le quartier puisqu'ils veulent changer en fait, le peuplement du quartier, mais en plus, ils ont réussi à obtenir un truc fou, c'est que ce soit même pas dans leur ville qu'on reconstitue l'offre, mais que ce soit laissé à la métropole. En gros, débrouillez-vous les autres pour reconstruire les logements sociaux que nous, on a détruits. et c'est renvoyé donc à la métropole du Grand Paris et qui n'a toujours pas, enfin, et à une programmation qui est renvoyée au futur puisqu'on n'a toujours pas de plan de l'habitat et de l'hébergement de la métropole du Grand Paris qui doit planifier justement où on construit des logements sociaux. Donc en fait, non seulement on le remet à une entité qui ne fonctionne pas, mais en plus c'est pas pour demain. Donc c'est renvoyé au calende grec.
Parce que cette métropole du Grand Paris, donc ça n'a rien à voir avec la société du Grand Paris. Voilà. La métropole du Grand Paris, c'est une sorte d'intercommunalité.
C'est ça.
Et donc siège là pour le coup à la métropole du Grand Paris des conseillers, je suppose, oui. Qui sont élus.
Oui, alors qui sont élus sur les listes municipales. En fait, il n'y a pas d'élection propre pour la métropole, mais du coup, quand on vote pour les municipales, il y a des petites croix qui disent ceux-là, ils vont aller à la métropole du Grand Paris.
Et eux, leur pouvoir de décision, justement, c'est quoi ? Donc, c'est eux qui doivent s'occuper des politiques de logement, des politiques de transport, des politiques...
Alors, le transport, c'est plutôt la région. Mais donc, eux, ils ont l'urbanisme et le logement, ce qui est très important. Hein, et c'est une grosse compétence, sauf qu'elle n'est pas mise en œuvre. Parce que pour qu'elle soit mise en œuvre, il faudrait qu'ils fassent ce plan, ce PMHH, donc le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, qui est en fait un plan qui planifierait où on construit quoi, etc., sur tant d'années. Or, ils n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord, y compris il y a des désaccords entre la métropole et l'État. Il y a eu un premier projet en 2017, mais il n'a pas été entériné. Et donc, en fait, la métropole, elle existe depuis 2016, juridiquement. En fait, ce qui est très particulier, donc là, on ouvre un autre chapitre, mais la métropole...
Ceci dit, on voit que ça correspond quand même chronologiquement, hein, le Grand Paris Express, la métropole du Grand Paris,
oui, bien
tout
sûr.
D'un coup, ces stratégies de rénovation urbaine, etc.
Bien
on
sûr.
A l'impression quand même que ces années 2000 et puis la fin des années 2000, c'est très...
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, des années 2010,
ça correspond, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, la métropole du Grand Paris, en fait, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie au fait... Les intercommunalités de grandes villes, ça existe depuis longtemps. Enfin, il y a les communautés urbaines de Bordeaux, de Lyon, etc., qui existent depuis longtemps. À Paris, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord pour faire une communauté urbaine qui corresponde à peu près à l'agglomération. Donc c'est l'État qui l'impose là, avec la métropole du Grand Paris, mais avec à chaque fois des calculs politiciens pas possibles pour le périmètre, qui correspond pas en fait à l'ensemble de l'aire urbaine de Paris. Quel poids de Paris et des banlieues là-dedans. À chaque fois, à chaque élection, il y a un peu du travail... Enfin, on change les choses pour espérer que ce soit plutôt à gauche ou plutôt à droite, selon qui décide. Enfin, c'est vraiment de la politique politicienne de bas étage, puisque là, il y a des gros enjeux de récupérer la mairie de Paris. La métropole, elle a été mise en place finalement par la gauche, mais elle a tout de suite été à droite, parce qu'en fait, les élections municipales avaient vu la victoire de la droite. Bon. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que c'est l'État qui impose à des élus locaux de dire « Bon, bah maintenant, vous allez être en intercommunalité, il va falloir travailler ensemble », qui donne des compétences à cette métropole. La métropole du Grand Paris, il y a des métropoles aussi en province. Toutes les grandes communautés urbaines sont devenues des métropoles. C'est une loi nationale, en fait, hein, avec des attributions, etc. Sauf qu'à Paris, ils sont d'accord sur rien, si ce n'est de ne pas avoir trop de compétences supracommunales, de préserver le pouvoir des maires. Et donc, il n'y a pas de péréquation fiscale, ou très peu. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur un plan sur l'habitat. Et tout ce qu'ils font... Parce qu'y compris, comment dire, il y a des compétences qui sont données à la métropole, mais il y a une part de flou, où c'est les élus eux-mêmes qui doivent se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'ils donnent à la métropole et qu'est-ce qu'ils gardent localement. Et là, ils sont d'accord pour dire le moins possible. Et en fait, la métropole, elle a un petit budget, elle n'a pas vraiment de grosses compétences, et elle a quoi ? Elle doit avoir deux ou trois opérations d'aménagement qu'elle a pris en charge, ça devient elle qui est un peu le maître d'œuvre. Bon. Donc ça n'a pas beaucoup d'impact, quoi, de ce point de vue-là.
Et donc, pour revenir à ce problème des logements sociaux, puisqu'on était parti de ça, comment ça se passe pour les locataires qui vont devoir partir parce que leur bar est démoli, qui sont relogés ou pour qui on propose un logement beaucoup plus loin, beaucoup plus cher? Comment est-ce qu'ils sont pris en charge? Qu'est-ce que l'État fait, justement, pour essayer de subvenir à cette pénurie des logements sociaux?
C'est ça le problème, c'est qu'en fait on doit reloger des gens, mais on n'a pas assez de logements, et on n'a pas assez de logements accessibles en termes de loyer. C'est-à-dire que, par exemple, avant de répondre à ta question, ce qu'il faut voir, c'est qu'on démolit des logements sociaux, qui étaient des logements sociaux des années 60-70. Au passage, parenthèse, il y a des architectes qui dénoncent ces démolitions parce qu'ils disent en fait, les logements qu'on démolit sont de meilleure qualité architecturale. Certes, il fallait les réhabiliter, mais en termes de structure, ils sont plus solides, plus forts que ceux qu'on construit actuellement, qui vont se dégrader plus vite. Donc, bonjour. Par ailleurs, il faut savoir que démolir et reconstruire un logement social, ça coûte à peu près 200 000 euros, que réhabiliter un logement, réhabiliter un logement social, ça coûte 30 000 euros. Donc, tout est dit, c'est-à-dire qu'on dépense de l'argent public pour ne pas construire plus de logements sociaux, alors que là, il y a, je ne sais plus combien de demandeurs, là, en Ile-de-France, il faut que je retrouve mes... Oui, c'est ça. En Ile-de-France, il y a 783 000 demandeurs de logement social. Et en France, il y en a 2,6 millions. Donc, c'est énorme. Et il faut aussi avoir en tête que la grande majorité, c'est à peu près dans l'ordre de 70-72% de ces demandeurs, que ce soit au niveau français ou au niveau francilien, qui ne peuvent pas payer plus que le logement très social. Donc, non seulement, donc, il y a ces problèmes de où on met de l'investissement public alors qu'il n'y a pas beaucoup d'argent public pour le logement social de moins en moins. L'État finance presque plus le logement social aujourd'hui, ce qui est un truc fou, hein, alors que les besoins n'ont jamais été aussi importants, enfin, rarement depuis longtemps. Il y a la question de la qualité architecturale, il y a la question aussi que les logements sociaux qu'on reconstruit, même si c'est des loyers conventionnés, ils sont quand même plus chers que les loyers qui ont augmenté tout doucement depuis les années 60. Et donc, il y a des gens, même du logement très social qui applique les règles actuelles, ils ne peuvent pas le payer parce qu'il y a une paupérisation très forte des classes populaires aujourd'hui, l'inflation, etc. Donc, c'est une opération perdante de plein d'aspects. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas assez de logements sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des demandeurs et puis là, il y a des gens à reloger. Ils sont prioritaires, mais donc ils passent avant des demandeurs. Enfin, c'est-à-dire qu'on allonge la liste en fait, des demandeurs en faisant ça, alors qu'on devrait dire, attendez, on laisse déjà les gens, ils sont logés, bah, on les laisse, puis on va essayer de faire des logements pour ceux qui ne sont pas logés. Et donc, bah, ensuite, il y a une enquête sociale, etc., des propositions de relogement qui sont faites plus ou moins bien, les gens sont plus ou moins bien informés, mais en gros, on leur propose des choses, mais on leur propose en fonction de leurs revenus. Donc, s'ils ont des revenus faibles, etc., bah, on va leur trouver les trucs, ceux qui sont les plus modestes, on va leur proposer des logements dans des quartiers qui sont en attente de rénovation, c'est-à-dire que parfois, ils vont être logés une autre fois après, qui sont les plus dégradés, où les loyers sont les moins chers, parce que de toute façon, sinon, ils ne peuvent pas payer, en fait, les loyers de choses de logements sociaux neufs. Donc là, il se passe quelque chose qui se passait déjà avant. C'est pas nouveau, c'est pas nous qui le montrons, mais une forme de tri social. Ceux qui ont les moyens, ils vont éventuellement avoir une petite accession à la propriété avec une aide, etc. C'est vraiment ceux qui sont dans le haut du panier. D'autres, ils vont bah, en fait, payer plus cher, mais avoir un logement à peu près équivalent à notre endroit, etc. Ils sont rarement relogés sur place, parce que de toute façon, il y a une question de temporalité. Il n'y a pas encore les logements sociaux qui vont reconstruire, etc. Puis ils sont de moins en moins reconstruits sur place. Et puis ceux qui sont les plus modestes et qui sont majoritaires, ben, ils vont là où ils peuvent, là où on peut les emmener. Et la plupart du temps, ils disent non, parce qu'en fait, ça ne leur va pas là où on veut les emmener. Donc ça traîne en longueur et puis voilà.
Et ce que vous montrez dans le livre, c'est que évidemment ces personnes qui sont précaires hein, ou d'ailleurs qui travaillent mais qui sont des travailleurs pauvres, évidemment ils sont là depuis très longtemps, ils ont tissé des liens de sociabilité qui fonctionnent comme des ressources. Et donc non seulement quand ces personnes-là sont relogées, bah, y a une perte directe de revenus disponibles puisque les loyers sont plus chers, mais il y a aussi une perte de ces ressources en termes de sociabilité. Est-ce que ça, c'est pris en compte ou pas du tout ?
Alors, pas du tout. Et ça, c'est un vrai problème, mais qui excède le Grand Paris qui est depuis la rénovation. C'est-à-dire qu'on est dans... Il y a le prêt-à-penser de la mixité sociale, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi le prêt-à-penser de la mobilité. C'est-à-dire qu'il faut être mobile, voilà, t'es au chômage dans le Nord, bah, bouge-toi, tu vas aller trouver quelque chose ailleurs. Alors, ce qui passe complètement sous silence, la question que bah, parfois t'es deux actifs, que t'as un ancrage familial,
il y a des enfants,
enfin, voilà, que tu bouges pas comme ça, et encore moins, enfin, moins t'as de ressources, plus c'est difficile de tout d'un coup changer de région, voilà, donc c'est plus des cadres, des gens qui sont bien dotés, qui vont faire ce choix, et encore, ça reste une minorité, hein, les gens, en général, ils sont plutôt dans des formes d'ancrage, donc on valorise la mobilité, et puis par ailleurs, en revanche, on sous-estime complètement l'ancrage. Au contraire, l'ancrage, le fait que des gens restent longtemps au même endroit, dans des concentrations de classe populaire, dans des quartiers populaires, c'est mal vu. Voilà, c'est il y a la culture de la pauvreté, etc. Il y a de la délinquance. Enfin, c'est vraiment mal vu par les pouvoirs publics. Et donc, c'est assez récent. Enfin, ça commence à, il y en a plusieurs, mais il y a des travaux très clairs qui montrent les ressources de l'ancrage, qui montrent que quand on est très précaire, que la vie, c'est la survie au quotidien, tous les liens de voisinage, c'est ce qui permet, par exemple, je sais pas, garder les enfants, mais sans que ça coûte de l'argent, trouver des commerces pas chers, des promos à la semaine, parce que c'est des gens qui font leurs courses à la semaine, qui peuvent pas, en fonction de où tombent les aides sociales, etc. Là, je fais référence au travail du collectif Rosa Bonheur, la ville vue d'en bas, que je recommande chaudement aux auditeurs et auditrices, parce que c'est des gens qui montrent, y compris qui ont travaillé sur Roubaix, donc une ville vraiment très pauvre, mais qui montrent que des gens dont on dit qu'ils ne travaillent pas, enfin des chômeurs, en fait travaillent. Et c'est ce qu'ils appellent le travail de subsistance, et qu'en fait c'est un travail harassant du quotidien pour juste assurer la subsistance de la famille, des proches, etc. Donc, et ça, c'est vraiment par l'ancrage qu'ils s'en sortent. Ils survivent, hein, c'est pas la richesse. Mais voilà. Alors, ça veut dire que quand on déracine des gens, non seulement voilà, il peut y avoir le loyer plus cher, etc., le fait de devoir partir plus loin, le fait tout simplement d'être dépaysé, de devoir reprendre ses marques, mais aussi, on perd toutes ces ressources un peu informelles des liens de voisinage ou de la connaissance d'un espace. Et ça, c'est évidemment pas du tout pris en compte. Et souvent, les gens, d'ailleurs, demandent d'être logés ensemble. C'est-à-dire, une cage d'escalier, ils disent « on voudrait être logés ensemble ». Et évidemment, c'est impossible puisqu'il n'y a pas un immeuble entier prêt à recevoir les mêmes personnes.
L'élégance dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzag entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage, pourtant jeune et ambitieux. C'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y'a une queue d'un kilomètre pour gagner 3 pépés. Je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée. Les pauvres petits smicards, y'a de quoi s'alarmer. Les bras quoi m'armer. Tout ça y'en a marmé. Un jour les keufs viennent te ramener. Vitrine 9-4 de ma ville, je veux être le prince. Je veux pas te cacher, monsieur le maire est une pince. Des promesses y'a pas à dire, y'en a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Et vos monuments à Samba, nous on s'en fout. Soi-disant députés en costard, ils s'en fout. Comme tout citoyen, censé aller voter. Histoire de dire que j'existe dans leur communauté. C'est impossible, je vois des frères me noter. Au déboire à Benoît, c'est pas une nouveauté. À la suite, je félicite les gros bonnets l'illicite. Pas d'ingénieur dans mon équipe. On est jeunes et ambitieux. Parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux.
C'est quand tu veux.
On vit en HLM les uns sur les autres, et les superposés, j'ai rien connu d'autre. On a la rage, mais comment rester sage? On vit en marge, on roule et tous barge. Souvent les huissiers à ta porte font éruption. Si tu payes pas ton loyer, c'est l'expulsion. Val-de-Marne, le pourcentage d'immigration. Aussi élevé que tous mes frères qui mettent en prison. Pour se payer un avocat, on plaint Pascal. Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences. On n'a jamais eu de chance, les circonstances sont fortes qu'à pénitence. T'as pas réglé tes amendes, le trésor public t'a coincé. Oublie les vacances d'été,
des TIG.
Surtout on met la pression. Ta boîte aux lettres est pleine de rappels et d'assignations.
Ouais mec,
ouais mec.
C'est ça notre vie, code 94-400 Vitry. Vitry. Maman lui a ses qualités et ses défauts. Peuplé d'artistes et de sportifs de haut niveau. D'escrocs dans les halls jusqu'aux bureaux municipaux. Gros, tous vitriaux,
tous vitriaux.
Même si c'est pas tous les jours facile, je veux être le prince de ma ville.
On est jeunes et ambitieux.
Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front. C'était 113 qui chantait Prince de la Ville, une playlist idoinissime concoctée par Yolène. Yolène qui a fait l'interview que l'on diffuse ce soir, et j'ai envie de dire une interview exclusive en fait, hein, d'Anne Clerval qui a coécrit avec Laura Wojcik chez Zone Les Naufragés du Grand Paris Express. Et donc on a évoqué dans la première partie de l'émission ce qui concernait quand même ce projet, hein, du Grand Paris, toutes ces gares. Tout l'argent qui était mis dans cette transformation comme ça de l'approche banlieue parisienne. Et dans un deuxième temps, on a parlé expropriation, relogement, politique de logements sociaux. Et dernière partie que nous allons écouter, nous allons terminer avec la question de la fameuse mixité sociale et la vision politique qu'elle charrie.
Et c'est en lien avec ce que tu appelles justement le prêt-à-penser de la mixité sociale et justement cette façon d'avoir transformé l'habitat dans les villes populaires en problème public, en problème de violence urbaine, etc. Et ça, vous montrez dans le livre qu'en fait, il y a eu un changement qui est lié aussi à un changement politique, hein, tout simplement, mais qui est aussi lié à la désindustrialisation, d'une politique de la ville centrée sur les classes populaires. On va faire tout, on va développer un environnement propice au bonheur, en gros, des classes populaires, ou en tout cas, on va faire des services publics, on va faire des crèches, on va faire des commerces, etc., à une politique de la ville centrée sur la mixité sociale. Qu'est-ce que ça révèle et quels sont justement les problèmes afférents pour les classes populaires de ce changement de paradigme politique ?
Oui, alors c'est... il faut préciser le... ce que tu décris au départ. Alors déjà, je pense qu'il faut faire attention. Politique de la ville, il faut le réserver, mettre des guillemets, on ne peut pas le mettre à l'oral, mais le réserver à cette politique qui a émergé dans les années 80 après les premières émeutes et qui concerne les grands ensembles et d'autres quartiers populaires. Et on va y revenir. Et ce que tu décris sur la ville populaire à qui on va essayer de d'assurer un niveau d'équipement, y compris culturel, ça c'est le communisme municipal. Ce n'est pas un paradigme d'État, hein, ça ne l'a jamais été. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours eu une vue un peu... Enfin, il y a eu des velléités ségrégatives, on les met à l'écart, voilà, ils nous embêtent pas en périphérie. Et puis, il y a eu un certain parti localement qui a valorisé la ville populaire en disant... Voilà, ce qu'on dit dans le bouquin, c'est qu'il y a presque... Il y a quasiment plus d'élus communistes aujourd'hui. Il n'y en a plus beaucoup déjà. Mais ceux qui restent, ils ont même... Eux aussi, ils parlent de mixité sociale. Et c'est ça qu'on disait. C'est qu'on dit, bah, en fait, ça, il n'y a plus personne qui assume le fait que, bah, oui, c'est une ville populaire avec beaucoup de logements sociaux. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est que, bah, ils aient un même niveau d'équipement que les beaux quartiers. Bon, même si... Voilà. Donc ça, c'est un projet politique, mais qui a toujours été minoritaire, hein, malgré tout. Et la mixité sociale, comme là, pour le coup, prête à penser au niveau de l'État, mais aussi de la plupart des courants politiques, ça date progressivement des années 80, donc ça vient vraiment des premières émeutes dans les banlieues. Il faut bien avoir en tête que c'est pas que les classes populaires qui sont dans le viseur, c'est les classes populaires racisées, même si, en fait, ça finit par toucher tout le monde. Mais ça, c'est jamais dit officiellement, puisqu'on peut pas dire ça en France, mais en off, et ça, c'est largement renseigné par des nombreux travaux de recherche, que c'est très clairement quelque chose qui est lié à la concentration des immigrés, quoi. C'est ça qui est visé encore plus que les classes populaires. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le communisme municipal, il a été abandonné parce que précisément, c'était plus que les classes populaires, mais les classes populaires immigrées? Et que là, parce que bon, des discriminations dans l'accès au logement social, c'est des choses qui sont établies aujourd'hui, mais y compris dans des villes communistes, en tout cas historiquement. Donc voilà, c'est une question qu'on pose. On n'a pas les réponses directement, c'est pas notre objet, mais voilà. Et ça a émergé sous la forme d'une lecture, c'est très intéressant. C'est, en gros, on est dans les années 80, c'est quand même la gauche au pouvoir hein, quand ça émerge, ce truc-là. On est au moment où on a abandonné les velléités de redistribution des richesses, de réduction des inégalités sociales, de réduction de la pauvreté. Et on a une lecture géographique des problèmes sociaux. C'est-à-dire qu'on se dit que s'il y a de la délinquance, du chômage, et à ce moment-là, c'était encore très faible, de la précarité dans certains quartiers, de l'échec scolaire, un peu tout est mis là-dedans, et ben c'est à cause de la concentration des classes populaires. C'est parce qu'ils sont tous au même endroit et que donc ils se renforcent dans leurs mauvaises habitudes, que sais-je encore. C'est une vision très culturaliste aussi de la pauvreté, hein. C'est l'idée que si on amène des classes moyennes dans ces quartiers, ben les autres ils vont apprendre des bonnes manières, ils vont essayer de s'en sortir au lieu d'aller dealer, etc., etc. Donc par l'exemple, quoi. Bon, ce qui n'est établi nulle part, hein, par aucun travail scientifique digne de ce nom. Bon, il y a des débats sur la mixité scolaire, mais alors sur la mixité sociale, c'est pas, enfin en tout cas. Si c'est dans un contexte de plein emploi, de redistribution des richesses, peut-être que c'est positif. Mais sinon, non. Enfin, si les inégalités s'accroissent, ça ne va pas redistribuer les richesses. Et ça, cette lecture-là, elle s'est imposée. Et vraiment au point qu'on lit aujourd'hui la pauvreté, non pas comme un problème pour les personnes pauvres, mais comme un problème pour les collectivités locales qui ont trop de pauvres, notamment dans un contexte d'austérité. Hein. Il y a moins de ressources publiques. Donc effectivement, les pauvres, ben, ça coûte de l'argent. On va les aider à payer leur loyer. Il faut de l'aide sociale, etc., etc. Et donc, quand on a de moins en moins d'argent, ben, ça... Et puis, en plus, ça peut poser des problèmes s'ils vont pas bien et qu'ils sont délinquants, etc. Bon, donc c'est devenu un problème de bon, il y a des pauvres, il est plus question de réduire la pauvreté, enfin personne n'a ce vrai projet là, mais en revanche on pourrait se partager le fardeau. Ce serait bien qu'on n'ait pas plus de tant de pauvres à tel endroit ou de gens remuants, parce que voilà, il y a une ambiguïté entre les deux. Sur le plan d'ailleurs de la vision de l'immigration et de la peur des concentrations, notamment des jeunes, il y a vraiment une construction des nouvelles classes dangereuses, quoi, les jeunes hommes français, hein, mais d'origine immigrée, donc qui seront toujours renvoyés à l'immigration. On a là quelque chose, donc une construction des nouvelles classes dangereuses et quelque chose qui renvoie en fait au seuil de tolérance, c'est-à-dire ce sont des politiques officieuses, mais enfin, qui étaient quand même dans des circulaires, etc., qu'on retrouve dans des archives. Quand les Algériens ont commencé à venir en France et à être encouragés à venir en France pour travailler, il y avait des circulaires qui disaient, bon, OK, vous allez loger les Algériens dans des logements sociaux, enfin, après de longues années en cité de transit ou en bidonville. Une fois qu'ils ont accès au logement social, on leur dit, attention, il ne faut pas plus de 5% d'Algériens, pas plus de 15% d'étrangers dans un quartier, sinon, ils risquent de ne pas être acceptés. Ou ça risque d'être un enjeu en termes d'identité. Enfin, tous les germes de la question de la menace sur l'identité nationale, ils sont là depuis très longtemps, en fait. Et après, il y a des continuités et des discontinuités. Et ce que montre quelqu'un comme Stéphane Kipfer, par exemple, qui a travaillé sur la rénovation urbaine, c'est qu'il dit, en fait, soit la volonté de concentration, de ségréger, de mettre tous les immigrés au même endroit pour les contrôler, ou au contraire de les disperser, qui est aussi pour les contrôler, éviter les émeutes, sont les deux faces de la même médaille. Ce sont des politiques racistes, en fait, enfin, en tout cas de gestion raciste de populations qu'on ne veut pas complètement assimiler ou considérer comme français. Et voilà, il ne faut pas. Le problème, c'est qu'il y a une lecture, y compris de gauche, qui se veut généreuse, hein, de gens naïfs qui se disent bah, la mixité sociale, c'est bien, c'est mieux que les gens différents vivent ensemble, on n'est pas pour ces... on veut pas garder dans un ghetto les immigrés. Enfin, bon, et oui, on peut entendre ce discours-là, mais c'est intéressant, je pense, de comprendre que quand l'État oblige des gens à se concentrer ou à se disperser, dans les deux cas, c'est quelque chose, c'est une politique de domination. Il faut laisser les gens le choix aux gens, en fait, pour que ce soit vraiment une politique d'égalité. Donc là, il y a cette analyse, notamment de Kipfer, qui dit que la rénovation urbaine, c'est finalement une sorte de réactualisation du seuil de tolérance, de dire attention, il y en a trop là, et il faut disperser. Donc ça, c'est devenu un prêt-à-penser. Et puis, ce qui est formidable, c'est que la mixité sociale, ça s'entend dans tous les sens. Ça peut être de favoriser les logements sociaux dans les communes aisées, hein, c'est ce que la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui est actuellement mise en danger, donc de 2000, préconisait, hein, 20%.
Déjà, sans beaucoup de contraintes. Mais...
Voilà, parce que les contraintes avaient été levées par la droite. C'était une... Bon, mais... Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi exactement l'inverse, c'est-à-dire il y a trop de pauvres dans cette commune, il faut en mettre moins. Donc ça, bon. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que cette loi SRU, elle n'arrive pas à contraindre. Ça fait 20 ans, donc on a le recul. Elle n'arrive pas à contraindre les communes qui ne veulent pas faire des logements sociaux à en faire. Ils préfèrent payer les amendes, ça leur revient moins cher, etc. Et en plus là maintenant, comme on va leur permettre de faire du logement intermédiaire pour remplir les objectifs, bah il y a aucun problème, ils vont le faire. Mais en revanche, et c'est ça qu'on a essayé de dire, et on n'est pas les seuls à le dire, mais on a pointé pas mal d'éléments où la mixité sociale, c'est un argument pour aller contre le droit au logement des classes populaires. Donc, par exemple, dans les politiques d'attribution, ben, on va dire « Ah ben non, vous êtes une famille malienne, nombreuse, précaire, il y a beaucoup trop de maliens déjà dans cette barre d'immeubles, donc on ne va pas leur dire comme ça, de toute façon, on n'a pas besoin. Il y a tellement peu de logements sociaux, il y a tellement de concurrence qu'on les met à l'écart, on n'a même pas besoin de justifier. Et c'est hyper dur de montrer qu'il y a une discrimination. Mais ça, ce n'est pas nous, mais il y a des travaux qui montrent qu'il y a des discriminations racistes dans les attributions de logements sociaux. » au nom de la mixité sociale. Bon, il y a ça. Mais nous, ce sur quoi on a plus insisté, c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur la rénovation urbaine, sur le fait qu'on n'a pas le droit de créer des nouveaux logements sociaux, etc. Mais il y a aussi, en ce moment même, le nouveau schéma directeur régional de l'Île-de-France, donc le SDRIF, pour écologie, qui maintenant bah, qui a été, donc c'est la loi qui impose qu'il soit renouvelé, hein, c'est la région Île-de-France qui est maintenant à droite, et dedans, et il va être voté puisqu'ils ont la majorité, il y a une mesure dite anti-ghetto. Alors qu'est-ce que c'est que cette mesure anti-ghetto? C'est de dire que si une commune a déjà 30% de logements sociaux, alors ils appellent ça du logement très social, et en fait dedans ils mettent le très social et le logement social classique, c'est déjà une erreur, enfin voilà, c'est super intéressant, et ben l'Île-de-France interdirait à ces communes de créer plus de logements sociaux. Et ça, c'est très intéressant parce que ce que ça montre, c'est que la loi SRU, qui est maintenant dans la loi, oblige les communes des grandes villes à avoir 25% de logements sociaux, c'est un objectif à atteindre. C'est devenu aussi un seuil de... Bah, les communes qui en ont trop... Enfin, c'est pas la loi SRU qui dit ça, hein, mais il y a plein de collectivités qui se saisissent de ce seuil, non pas pour dire il faut qu'on atteigne ça, mais pour dire il faut pas qu'on en ait plus que ça. Et ça, c'est fou. Le discours des maires, notamment dans les communes populaires où il y a 30, 40, parfois 60% de logements sociaux dans des cas un peu exceptionnels, ce qui est le cas de Bagneux ou de Gennevilliers, par exemple. Gennevilliers, ils veulent maintenir leur taux. Bagneux, ils veulent le réduire. Mais même quand il y a 30-40%, eh ben, les maires disent bah, il n'y a pas de raison que ce soit nous qui ayons tout le fardeau, enfin, avec tout ce truc de un peu, c'est la même chose qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Hein. Mais ce n'est pas complètement faux sur le plan des finances publiques que ça pose des problèmes. Hein. Mais donc, les riches ne veulent pas faire du logement social, bah, nous, on va en faire moins. Et au total, on a envie de dire oui, mais alors vous faites quoi des classes populaires au total qui n'ont pas d'offre de logement qui... Bah tant pis, c'est pas notre problème. Voilà. Donc on est dans cette perspective-là.
Et on est très concrètement, ça vous le montrez dans le livre, justement, à l'aune de ces projets de rénovation urbaine autour des quartiers de la gare ou directement dans les quartiers de la gare, dans des stratégies de repeuplement de ces quartiers-là, alors pas forcément des villes entières, mais en tout cas de ces quartiers-là, pour attirer les classes que tu décrivais tout à l'heure, hein, des classes plutôt tertiaires, plutôt classes moyennes supérieures, dans l'objectif aussi, je suppose, pour les communes, de pouvoir tout simplement toucher des impôts sur ces populations-là, ce qui n'est pas le cas sur les populations les plus pauvres et les plus populaires.
Oui, alors ça, c'est ce qu'on a essayé de montrer, en fait, après, en partant des histoires individuelles, en essayant de comprendre la cohérence des projets, etc., une des thèses en fait qu'on défend, c'est l'idée de dire que ce Grand Paris Express est une politique de peuplement. Qu'est-ce que ça veut dire une politique de peuplement ? Ce sont des politiques urbaines qui peuvent être assez variées, qui visent à maintenir ou changer la composition sociale d'un quartier. C'est souvent assez indirect, ou d'un quartier ou d'une ville d'ailleurs. Le communisme municipal, en favorisant la création de logements sociaux pour maintenir des ouvriers et des électeurs du Parti communiste, c'est une politique de peuplement. Sauf qu'aujourd'hui, les politiques de peuplement, elles vont plutôt dans le sens inverse. Il n'y en a plus tellement qui vont dans le sens d'essayer de maintenir les classes populaires. Et politique de peuplement, plus précisément ici, c'est une politique de gentrification. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va marcher. Mais en tout cas, en termes d'objectifs, il y a l'idée de dire on a des espaces qui sont dévalorisés, à la fois en termes de prix foncier immobilier, en termes d'image, si on pense à la Seine-Saint-Denis, le 9-3, enfin voilà, c'est l'image dévalorisée par excellence, y compris internationalement. Hein. Il y a tout un discours au niveau de l'État, au moment de l'émergence du Grand Paris, qui est de dire il faut qu'on efface les banlieues. C'est pas seulement pour les communes, hein, c'est vraiment un enjeu pour la France. C'est que le 9-3, surtout quand il y a des émeutes, ce que disent quand on voit la presse internationale, c'est la France est à feu et à sang. Hein, y compris, il y a des gens qui nous appellent, ça va ? Bah oui, nous, on est à Paris, il se passe rien. Bon, voilà. Donc il y a une vision un peu comme si vraiment c'était la révolution en France. Donc il y a un enjeu d'image qui est important. Mais il y a aussi un enjeu en termes de gentrification. C'est-à-dire que si on regarde, donc Paris, c'est une commune qui s'est gentrifiée. Mais plutôt, même s'il y a eu un appui indirect par les pouvoirs publics, ça n'a pas été quelque chose de planifié, ça a été quelque chose qui s'est fait par le marché, voilà, par des investisseurs, par y compris beaucoup de personnes individuellement qui ont eu des opportunités, etc. Et puis, ça s'est propagé à la proche banlieue, et notamment aux communes limitrophes, notamment parce qu'elles sont bien desservies en métro, et par un peu les mêmes mécanismes, avec ou pas de soutien local. Hein, le maire de Pantin, clairement, est un gros soutien à la gentrification, avec parfois des opérations, d'ailleurs, planifiées, mais aussi quand même avec quelque chose qui se passe par le marché. Et ce qu'on observe, c'est que un des moteurs économiques de la gentrification, c'est ce que Neil Smith, un spécialiste de la gentrification, appelle le rent gap, c'est-à-dire l'écart de rente foncière, l'écart de prix entre ce que rapporte le sol ou l'immobilier aujourd'hui et ce qu'il pourrait rapporter si on changeait l'usage, etc. La Seine-Saint-Denis, c'est un énorme rent gap. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de Paris. C'est parfois bien relié, parfois pas bien relié. Et ça, le Grand Paris Express va tout changer. Et potentiellement, ça pourrait valoir beaucoup plus cher si on regarde des banlieues équivalentes en termes de distance dans les Hauts-de-Seine, par exemple. Or ça, les promoteurs tout seuls, les investisseurs immobiliers, ils peuvent pas... La Seine-Saint-Denis, c'est trop dur à changer par des acteurs individuels, en fait. C'est trop risqué, en fait, de se dire à Saint-Denis-Pleyel, quand on voit l'état du quartier de Saint-Denis-Pleyel avant qu'il y ait des travaux, donc de l'habitat dégradé, une tour dont on sait plus que faire, y a pas un promoteur tout seul qui va dire « Moi, je vais faire du logement haut de gamme là-dedans. » C'est trop risqué. Et ça, ce que montre la littérature internationale, c'est que dans ces conditions-là, il faut un investissement public majeur pour permettre la clôture du rent gap et donc le fait que des opérateurs privés puissent accumuler cette plus-value. Et là, on est exactement là-dedans. Ça ne veut pas dire que ça a été pensé, planifié à l'avance. En tout cas, clairement, le Grand Paris Express remplit cet objectif de deux façons. D'une part, il y a un vrai investissement public avec un signal qui dit ça va changer, ça. Y compris, ils ont publié un booklet là, qui s'appelait Business Opportunities. Donc, ils nous font une petite image de chaque quartier avec tous les trucs nouveaux en montrant, voilà, là, vous pouvez investir. Donc, c'est très clair. Et en même temps, parce qu'en créant des gares, ça crée une accessibilité qui va renchérir les terrains. C'est-à-dire que tout d'un coup, des espaces qui étaient mal reliés et où effectivement, des cadres parisiens n'avaient pas très envie de... Bon, déjà, il y a une très mauvaise image, donc on n'allait pas vivre à côté des grands ensembles. Mais en plus, de toute façon, en termes de transport en commun, ce n'était pas possible. Là, on est au pied d'une gare qui va nous emmener en 10 minutes à la défense ou quoi. Bah, évidemment que là, ça devient intéressant. Et donc, c'est ça qu'on montre, c'est que... Et c'est pour ça que la planification des logements dans les futurs quartiers de gare, c'est pas que du logement social, enfin c'est une minorité, voire pas de logements sociaux, et c'est plutôt du logement privé en accession à la propriété, de façon plus dense, donc argument écologique, y compris en termes d'écoquartier, quitte à détruire des jardins au passage, mais c'est pas grave, avec des matériaux écolos, etc.
Et tu fais référence au jardin des vertus à Aubervilliers.
Voilà, et à l'écoquartier qui va être dans le fort d'Aubervilliers. Ce qui est hyper intéressant pour cet écoquartier, c'est que c'est des terrains publics. C'est-à-dire qu'il y avait une maîtrise foncière. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai que les agents publics ne se sont pas rués pour acheter les terrains et les sanctuariser pour pas qu'il y ait de spéculation foncière. Au contraire, il y a même des foncières qui se sont montées, privées, pour acheter des terrains sans rien en faire, juste en attendant que ça monte. Et donc là, c'est vraiment de l'argent qui est fait avec zéro travail. Enfin bon,
c'est la spéculation. Quoi.
C'est le scandale. Ouais, mais c'est le scandale de la propriété privée du sol et de quelque chose qui rapporte de l'argent sur le dos des autres. Bon, bref. Et Et donc là, il y avait une maîtrise publique du sol, puisque c'était une emprise militaire, et ça a été vendu aux promoteurs, et pas trop cher, hein, d'ailleurs. Enfin, c'était avantageux, en fait, pour les promoteurs. Donc c'est vraiment un investissement public pour faciliter la plus-value privée. Voilà, et il y a eu donc des luttes, puisque il y a aussi cet équipement olympique de la piscine, du solarium, qui demandait de détruire une partie des jardins ouvriers de cet espace. Donc tout ça pour construire un truc pseudo-écologique. Bon, là, on est dans l'absurde. Mais voilà, c'est ça qu'on essaie de montrer, qu'on est dans cette politique de peuplement, d'essayer de changer la composition sociale grâce à ces gares.
Et justement, tu montres aussi, enfin vous montrez aussi que ça passe aussi par l'incitation à certains commerces à s'implanter. Donc il y a les restaurateurs dont tu parlais tout à l'heure qui vont évidemment devoir partir, leur immeuble va être détruit, mais les municipalités vont pousser justement à ce qu'il y ait des commerces bio, circuits courts, etc. Qui s'implantent, et on voit très bien quelle population de clients est visée derrière, quoi. On voit très bien le type de quartier qui est imaginé par ces pouvoirs publics derrière ce type de commerce implanté, des librairies, etc.
Oui, quoi. On n'a pas vraiment travaillé directement là-dessus. Et les communes ont plus ou moins... En fait, le commerce, c'est typiquement quelque chose qui est privé, donc il n'y a pas forcément de prise des pouvoirs publics sur la planification commerciale. Il y a une prise indirecte par le fait que, clairement, là, les locaux commerciaux en pied d'immeuble, les loyers vont être chers. Donc là, il n'y a même pas besoin de planification. De fait, ça veut dire que ce n'est pas forcément d'ailleurs des trucs en circuit court sympas qui vont être mis. C'est aussi des franchises commerciales parce qu'eux, ils peuvent payer des loyers plus élevés, voilà, des monoprix, des machins comme ça. Après, il y a certaines communes qui peuvent avoir, un travail de montée en gamme, mais qui existait déjà avant de ce qu'ils appellent la montée en gamme. Donc, par exemple, Saint-Denis essaye de faire ça, y arrive plus ou moins bien, mais en imitant Paris dans le quartier de Château-Rouge, où là, c'est vraiment une société d'économie mixte. La CMAEST qui achète des locaux commerciaux dans un espace où le commerce est très dynamique, pour, et c'est dit en off, mais pour éviter la concentration des boucheries halal, et qui donc sélectionne des commerçants sur des projets, des commerçants indépendants. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont mis ? Un restaurant gastronomique, une librairie, un marchand de vin, des fleuristes, des gens qui... un couturier qui vend du tissu wax, mais en fait, des C'est très ironique parce qu'on est dans un espace de commerce immigré, d'une centralité immigrée où il y a pas mal de commerce de tissus pas chers du tout, dont des tissus wax. Mais là, c'est des robes wax chic et donc c'est inaccessible aux classes populaires. On est dans ce type de choses. Donc ça, c'est plus avancé à Paris qu'en banlieue, ce type de politique. Mais on voit que là aussi, les pouvoirs publics ne peuvent pas imaginer laisser en place du commerce populaire bas de gamme. Ça fait mauvais genre, c'est moche, voilà. Et là, on est aussi complètement dans les préjugés de classe de ceux qui font les politiques publiques, qui sont soit des urbanistes, mais aussi tout simplement les élus, qui sont très rarement des gens issus des classes populaires, encore moins des classes populaires immigrées, et donc qui simplement projettent leur vision de la ville de « Oh, ben les bazars, machin, c'est moche !» Ok, donc on va... Et donc il n'y a jamais de réflexion sur « Ah oui, peut-être c'est moche, mais en fait ça a une utilité. » Et ce n'est pas une utilité seulement pour faire joli, c'est une utilité pour survivre. Donc il n'y a aucune politique pour essayer de maintenir les commerces populaires et faire qu'il y ait une offre adaptée aux personnes.
Et justement, vous finissez le livre là-dessus, sur des perspectives autres. Quel serait le grand pari possible ou le grand pari rêvé, selon vous ? Quelles sont les initiatives qui vont plutôt dans le bon sens, selon vous ? Tu parles notamment d'un groupe d'étudiants. Je suppose que c'est tes étudiants, en tout cas. En partie travailler avec eux, qui ont produit un projet qui est un projet qui fait envie, qui laisse les classes populaires en place, et puis tout un projet qui est financé, qui a l'air très argumenté. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour finir sur une note un peu plus optimiste ?
Oui, bien sûr.
Et plus politique aussi, c'est-à-dire que voilà, rien n'est automatique, rien n'est mécanique.
Non, c'est clair. Dans l'épilogue qui s'appelle « Un autre grand pari est-il possible ?», on examine un peu les marges de manœuvre locales. Bon, on montre ce que les communes peuvent faire parfois, par exemple d'essayer d'encadrer les prix du foncier en menaçant de préempter, ce qu'avait fait Saint-Ouen à l'époque où elle était communiste, des choses en termes de la régulation des loyers, enfin il y a pas mal de choses. Des choses, on montre aussi qu'il y a de plus en plus d'obstacles pour faire ça, que c'est compliqué, notamment quand les ressources publiques se raréfient. Mais on montre aussi que qu'il y a des obstacles réels au fait de faire un Grand Paris progressiste. De toute façon, il faudrait que ce soit au niveau intercommunal pour le penser. On rappelle quand même que le Grand Paris, c'était une idée de gauche dans l'entre-deux-guerres, hein, que l'idée, c'était de faire de la péréquation fiscale, de mettre des logements sociaux un peu partout. Bon, ça, c'est complètement perdu de vue par tout le monde. Mais ce qu'on a essayé de montrer, notamment à travers l'exemple que tu évoques là, c'est qu'il y a aussi un problème d'idéologie, y compris des maires qui étaient communistes, qui ne pensent que par ce truc de mixité sociale, montée en gamme, amélioration, enfin offre privée, enfin c'est une sorte de prêt-à-penser, y compris de prêt-à-penser urbain, et y compris les urbanistes ne pensent les choses que de cette manière-là. Et là, c'est des étudiants en urbanisme, donc à l'école d'urbanisme de Paris, en master 2, qui avaient eu une commande autour de la question du commerce dans les futurs quartiers de gare, et notamment c'était à Aubervilliers. Et ils avaient fait, bon, en plus, ils avaient un peu excédé la commande en travaillant aussi sur le logement. Ils avaient fait des scénarios. Donc, le scénario gentrification, ben voilà, on fait de la montée en gamme à fond du logement privé. Un scénario où ça reste un peu comme ça. Et puis, un scénario où on fait en sorte de, au contraire, dans le contexte où il y a une nouvelle gare et donc des risques de gentrification, de maintenir les classes populaires. Et c'était hyper intéressant. Il y avait à la fois la programmation du logement, ben, faire des logements très sociaux, etc. Donc, bien sûr. Et un investissement de l'État, mais bon, il y avait quelque chose autour de profiter de la nouvelle construction des quartiers de gare pour faire beaucoup de logements sociaux. Mais il y avait aussi une réflexion autour des commerces et de l'activité, en disant, bah, en fait, il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont des ouvriers du bâtiment, donc on pourrait mettre en place des filières de formation autour de la rénovation énergétique. C'est-à-dire, il y avait vraiment un projet d'écologie populaire, quoi, qu'il y ait une sorte de cluster avec des trucs de formation, de l'aide à monter des entreprises, pour que ces ouvriers du bâtiment, bah, ils puissent d'abord rénover y compris le parc de la commune lui-même, mais tout en maintenant les gens sur place, et puis développer leur savoir-faire, enfin faire des emplois. Il y avait ça, puis il y avait aussi la filière des garages, parce qu'il y a beaucoup d'automobiles de rue, enfin de garages de rue, mécaniques de rue, voilà, dans ces espaces-là. Et il y avait l'idée, bah, il y a tout un savoir-faire, on pourrait faire en sorte que les gens soient formés, et des diplômes, enfin, et des reconnaissances, et pas dans l'économie formelle, monte des garages, etc., avec des soutiens. Ils ont analysé plein de dispositifs de soutien au montage d'entreprises, etc., et y compris des dispositifs de préemption des commerces pour installer des commerces populaires en circuit court ou pour installer un garage, etc. Et ce qui était très réjouissant en fait dans ce travail, c'est qu'il était très sérieux, très chiffré et donc réaliste sur le plan technique, hein, mais complètement irréaliste sur le plan politique, au sens où aucune commune n'envisage un truc pareil. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait des élus ou des cadres, en tout cas de ce type de politique, qui étaient là à la présentation et qui étaient un peu interloqués, quoi. Ils avaient l'impression de voir un ovni, enfin, voilà. Et c'était un peu le résultat d'une formation critique au préalable. Mais en tout cas, ça montrait que c'était quelque chose, enfin, qu'il y avait des marges de manœuvre possibles. Alors, évidemment, s'il n'y a qu'une seule commune qui le fait, enfin, c'est pas la solution à tous les problèmes, il restera du chômage, enfin, voilà. Donc, c'est une idée. Mais en tout cas, ça montrait qu'une commune qui voudrait vraiment se dire, bah, en fait, moi, je veux, voilà, favoriser le maintien des classes populaires, essayer d'aider à l'accès à l'emploi, etc., par la création d'activités, pas par des ateliers d'aide à rédiger un CV, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait de l'aide à l'emploi. Des choses, en tout cas, il y a une marge de manœuvre, mais il faudrait sortir en fait vraiment avoir une sorte de révolution culturelle, quelque chose autour d'une hégémonie de la pensée de la mixité sociale. Et c'est pour ça que depuis, j'essaye de m'employer à essayer de déconstruire ça pour voir si des gens peuvent penser en dehors de ça. C'est très compliqué parce qu'en fait, ceux qui planifient, enfin, qui sont à la manœuvre des politiques urbaines sont des classes moyennes. Ils sont des gens qui voient mal, enfin qui ne voient pas les avantages de la concentration des classes populaires ou ce genre de choses, puisque c'est pas leur monde en fait.
Eh ben, merci Anne Clerval d'être passée en plateau.
Merci à vous.
Merci Anne Clerval et merci Yolaine. Donc on rappelle, hein, c'était une émission sur les naufragés du Grand Paris Express. Anne Clerval et Laura Wojcik chez Zone. Ça date de mars 2024.